Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bélux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza. Aujourd'hui, la suite d'hier, comme tous les jours, donc vous vous souvenez, il y avait 22 bateaux qui sont perdus pour l'instant et près de 180 personnes qui ont été enlevées par l'armée israélienne. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons contacter directement Stéphanie Domblon du Legal Team, qui va nous raconter exactement où nous en sommes pour l'instant.
Allô?
Oui, allô, bonjour Stéphanie.
Bonjour Hans.
Bonjour Stéphanie. Tu es relativement bien placée comme chef du Legal Team. Est-ce que tu peux nous donner une mise à jour? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport aux bateaux perdus ou aux gens qui ont été enlevés?
Ouais, bah peut-être commencer par les nouvelles des gens avant les bateaux. On a eu l'information ce matin que tout le monde avait été amené vers la Crète en bateau, mais la question est de savoir de où ils ont été amenés, parce que ça veut dire qu'ils ont disparu pendant près de 30 heures des radars. On ne sait pas entre le moment de l'interception et le moment où ils ont été amenés en Crète où ils étaient. Mais donc, ils ont été amenés en Crète et une fois qu'ils sont arrivés au port, ils ont eu des bus à leur disposition pour les emmener vers l'aéroport. Ça, c'est ce qu'on a comme information, ce qui a été communiqué aux familles. Ils auraient dû arriver à l'aéroport vers 14h. Depuis, nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas s'ils sont toujours en transit vers l'aéroport ou pas. Et les familles n'ont pas, les familles, leurs contacts ici en Belgique n'ont pas été informés non plus. Donc, nous n'avons aucune nouvelle de ces personnes, oui, ni de ce qui va leur arriver. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont pouvoir juste rester en Grèce parce que ce sont des citoyens européens, donc il n'y a pas de discussion possible légalement, ou est-ce qu'elles vont être expulsées par la Grèce, mais on ne sait pas sur quelle base légale elles pourraient l'être en tant que citoyens européens. Donc tout ça est très, 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 très flou. Pour les bateaux, donc il y a 21 bateaux plus un qui a été abîmé, qui ont été plus ou moins interceptés. Certains ont été laissés à la dérive. Donc quand ils ont été laissés à la dérive, ils ont pu être récupérés pour certains d'entre eux. Et puis, on est en train de voir un peu quel est leur état et si c'est possible d'en faire quelque chose pour la suite, mais on verra.
Oui.
Information très importante, extrêmement inquiétante, c'est le kidnapping de Thiago et de Saïf, qui sont deux organisateurs de la flottille, le mode de direction de la flottille est tout à fait public, donc ces personnes sont tout à fait publiques, et qui ont donc été, eux, non pas amenés en Grèce, mais sont emmenés ou sont en train d'arriver en Israël, sous des charges qui ont l'air d'être celles de terrorisme ou de participation à une activité terroriste, c'est pas clair. Et donc ils sont amenés officiellement pour être interrogés. Donc ça veut dire qu'ils sont tous les deux seuls ou vont être amenés vers les prisons israéliennes, dont on sait que les modes d'interrogatoire posent de gros problèmes en termes de violation du droit international, de violation du droit des personnes, et on craint beaucoup pour la suite de leur sécurité. Et voilà où nous en sommes sur cette question.
Oui, un certain nombre de personnes ont été hospitalisées aussi à Crète.
Oui, Donc, il faudra établir les circonstances, mais effectivement, une bonne trentaine de personnes ont été hospitalisées et sont soignées pour des blessures diverses et variées, mais des blessures qui ne sont pas, qui ne mettent pas leur vie en danger. Donc, elles ont été brutalisées par l'armée israélienne, probablement lorsqu'elles étaient déjà dans les eaux grecques. Donc, alors la raison pour laquelle je dis ça, parce qu'en fait, c'est juste important en termes de droit international et de responsabilité à établir par la suite. Donc, on sait d'ores et déjà qu'il y a, dans toute cette histoire d'interception et de peut-être expulsion, déportation, on ne sait pas trop, on sait qu'il y a en tout cas une complicité de certains États européens, pour le moins, et d'États non-européens aussi d'ailleurs, pour mettre fin clairement à cette flottille, qui a annoncé tout à l'heure dans une conférence de presse qu'elle avait bien l'intention de continuer son chemin vers Gaza.
Ah oui, donc pour l'instant, la flottille veut continuer.
Oui, donc pour le moment, elle est à l'arrêt parce que la météo ne permet pas de repartir immédiatement, ouais. Mais dès qu'elle le pourra, son intention est effectivement de reprendre le chemin vers Gaza, où le blocus est toujours en cours depuis 2007, quand même, rappelons-le. C'est pas comme si c'était daté d'hier et comme si le problème était résolu. Donc, il n'y a aucune raison de changer d'avis sur la mission, qui est, je le rappelle, quand même parfaitement légale.
Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu veux raconter ?
Simplement qu'on est attentif à ce qui va se passer dans les heures qui suivent et que certainement on va appeler à manifester massivement un soutien par rapport à Thiago et Saïf d'une façon ou d'une autre qu'on est en train d'établir, mais que donc on invite les gens à suivre nos réseaux sociaux pour être tenus au courant des mobilisations et des dernières nouvelles.
Ok, très bien, bien entendu. Merci Stéphanie.
Merci à toi, Hans.
Et à très bientôt.
Oui.
Il y a un peu d'aide d'être ici. Hein.
Voilà, et tout à l'heure, Stéphanie a déjà parlé de la question de où se trouvaient exactement les bateaux qui ont été attaqués. Est-ce que c'est dans les eaux grecques? Est-ce que c'est dans les eaux internationales? Apparemment, c'est dans la zone de recherche et de sauvetage. Mais de toutes ces implications, enfin de toutes ces conséquences de où se trouvait la flottille à ce moment, nous allons parler avec Gamze Erdem Türkeli, que je vais essayer d'appeler maintenant. Bonjour Gamze.
Bonjour Hans.
Bonjour. Est-ce que je prononce bien ton nom?
Oui.
Ah, ça va. Bon. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Oui. Je m'appelle Gamze Erdem Türkeli et je suis professeure agrégée à l'Université de Anvers. Je spécialise sur le droit international public, droit humain et développement soutenable.
Ok. Merci. Nous savons que les bateaux ont été attaqués dans la zone de recherche et de sauvetage de la Grèce. Mm-hmm. Quelle est la responsabilité de l'État grec dans ce contexte?
Oui. Donc, d'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je dois d'abord dire, je pense que les circonstances qui nécessitent cette conversation sont malheureusement déplorables au point de vue du droit international.
Oui.
Et je dirais aussi que quels sont le résultat de l'impunité qu'on a vu, qui concerne ce type des violations de droit international par Israël à multiples reprises, y compris il y a 15 ans, plus de 15 ans dans le cas de Mavi Marmara, mais aussi plus récemment en octobre 2025 avec la flottille Global Sud. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation des circonstances qui engagent vraiment la responsabilité légale de plusieurs États.
Oui.
Donc, la zone dont vous venez de parler, Il y a une convention qui s'appelle la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, qui désigne en total 13 zones de recherche et de sauvetage dans le monde entier. La zone, j'ai compris, des faits où étaient interceptés des navires de la flottille par Israël, se trouve en haute mer, donc les eaux internationales. Oui. Mais cette zone est sous la responsabilité de l'État grec en termes de recherche et de sauvetage. Et il s'avère que les activistes au bord des navires de la flottille ont fait appel à la garde côtière grecque, oui, en détresse, et qui n'ont pas eu de réponse. Donc, il faut bien dire qu'il existe une obligation d'assister, d'apporter d'aide aux navires en détresse dans le droit international, et que cette obligation existe depuis déjà très très longtemps.
Oui.
C'est une norme coutumière qui oblige tous les États, mais aussi une obligation sous plusieurs conventions, comme la convention dont j'avais parlé tout à l'heure, la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage, mais aussi la Convention sur le droit de la mer. Et Grèce est bien sûr obligée par le droit coutumier, mais aussi ces deux conventions où cet État est à partie.
Oui. Oui, apparemment, entre-temps, il y a eu une déclaration de presse du gouvernement grec qui dit qu'ils étaient au courant, qu'ils ont observé, mais qu'ils n'ont vu aucune raison pour intervenir.
Ah oui. Voilà. Mais aussi, il faut encore se rappeler que si cet État a, en fait, vu les circonstances, donc vu...
Oui.
Et le passé, ayant vu déjà en octobre 2025 qu'Israël a intercepté illégalement dans la haute mer les navires, et ce n'est pas la première fois,
oui,
et puis a arbitrairement enlevé des activistes sur les navires qui ont ultérieurement subi... selon des ONG, mais selon les informations dans les médias qu'on a vues, de mauvais traitements.
Oui.
Je pense qu'il faut se souvenir que ça dépend des circonstances. Donc, ce n'est pas un événement qui se passe pour la première fois. Et sachant que l'intercession de ces navires aux eaux internationales est illégale, parfaitement illégale, et qui peut mettre en danger les vies des activistes qui se trouvent au bord, je pense qu'une explication en disant qu'il n'y avait pas une raison de répondre à cet appel de détresse ne soit pas totalement valide.
Oui.
Il y a des circonstances qui peuvent nécessiter vraiment qu'au moins l'État grec suit de près, mais si on voit qu'il y a des interceptions illégales et aussi qu'il y a deux activistes qui ont été enlevés, si j'ai bien compris, juste avant de venir, j'ai entendu Stéphanie.
Oui.
Et donc, je comprends qu'il y avait une situation qui a mis en danger les vies des activistes qui se trouvaient à bord.
Oui, tout à fait.
Et donc si il s'avère que la garde côtière grecque n'a pas répondu aux appels de détresse venant de ces navires en pleine conscience des intentions de l'État israélien à intercepter illégalement ces navires et aussi potentiellement d'enlever des activistes dans la haute mer, là on peut parler, je pense, de la responsabilité légale de la Grèce pour avoir contribué à cette violation par inaction.
Oui, ok, bien entendu. Et est-ce que pour les activistes, est-ce qu'il y a moyen d'une certaine façon de faire appel à cette responsabilité ou d'ouvrir une procédure juridique ou quelque chose?
Est-ce que c'est possible? On a vu, donc, c'est pas le seul cas. On a vu pour les navires qui transportaient des gens qui échappaient de la guerre. Donc dans ce cas-là, on a vu aussi des pushbacks. On appelle ça pushback.
Oui.
Donc les États qui essaient de pousser les bateaux pour qu'ils lancent pas dans les zones de recherche de sauvetage ou bien leurs territoriales. Et là, on a vu aussi que oui, dans la Cour européenne de droits de l'homme, mais aussi des procédures devant la Comité des droits de l'homme de l'ONU.
Oui.
Et là, on a vu que la Comité des droits de l'homme de l'ONU a établi qu'il y a une obligation des États de protéger le droit à la vie, y compris dans les situations de détresse en mer. Donc, il y a des procédures juridiques ou dans les cours, mais aussi dans les comités de droits de l'homme, et qu'on peut faire appel, mais ça prend énormément de temps. Donc, je pense qu'il faut aussi exiger que les États qui sont impliqués, soit par ses responsabilités en termes de recherche et de sauvetage, mais aussi en termes d'être des États où appartiennent les navires, qu'il faut vraiment pousser ces États à prendre sérieusement ses responsabilités. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, qu'on voit que ces illégalités cessent de prendre place. Donc, je pense il y a des mesures à prendre par les États qui sont impliqués et qui n'ont pas été faits. Et c'est pour ça qu'on se trouve dans cette situation encore une fois.
Oui, en fait, cette situation d'impunité, en fait, qui est prolongée et qui devient de plus en plus importante, en fait.
Oui, et ce n'est pas seulement le cas des navires. La flottille existe et c'est parfaitement légal d'organiser une aide humanitaire. C'est parfaitement légal et c'est protégé dans le droit international de naviguer les eaux internationales.
Oui.
Sans être interrompu, sans être interpellé. Et la flottille existe parce qu'il y a un blocus d'Israël total, un blocus total de la bande de Gaza que Israël occupe illégalement. Ce qui est établi par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 19 juillet 2024. Et ce blocus existe depuis deux décennies déjà.
Oui.
Et c'est quasi total. Et c'est illégal. Ça, c'est considéré sous le droit international comme illégal. Donc, soit il faut enlever le blocus et rétablir une situation légale et finir avec l'occupation des territoires palestiniens. Et c'est une obligation qui implique tous les États du monde, donc la communauté internationale en sa totalité, et comme avait dit la Cour internationale. Donc cette impunité est vraiment à des multiples façades. Et il faut agir sur toutes les façades.
Oui. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous demander et que vous voulez raconter?
Je pense qu'il faut aussi se souvenir des obligations des États, donc non seulement l'État grec qui a été impliqué dans cette situation, mais il y a aussi des États dont les citoyens, les résidents ont été interceptés, enlevés par Israël.
Oui.
Et il faut que ces États donnent vraiment un soutien consulaire, diplomatique aux citoyens ressortissants de ces États qui ont subi ce traitement. Donc, je pense qu'il faut aussi souligner la responsabilité de ces États, des obligations de ces États envers leurs ressortissants.
Oui, tout à fait, comme la Belgique, et c'est pour ça que hier, on a été devant le ministère des Affaires étrangères pour exprimer notre mécontentement et on va certainement revenir dans les jours qui viennent.
Oui.
Oui.
Tout à fait.
OK. Ben, Gamze, merci beaucoup et à bientôt, j'espère.
À bientôt. Merci.
Oui, au revoir.
Au revoir.
Et c'est dit de... Béatrice, hein.
Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On avait espéré d'avoir Olympia, qui est, elle est bien encore sur son bateau, ou tout près de son bateau. Mais voilà, les gens sont très très occupés là pour l'instant, donc... Peut-être demain, je l'espère beaucoup. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, ce dimanche, il y a la marche contre l'impérialisme occidental qui commence à 14h devant l'ambassade des États-Unis, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc ça c'est dimanche à 14h. Et bientôt, vous allez voir sur les réseaux sociaux et sur les sites des appels pour aller manifester devant le ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc c'était tout pour moi. Bonne journée encore, fêtez encore bien le 1er mai et à bientôt, à demain même.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bélux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.